Sœurs, je vous invite ce matin à ouvrir le livre saint et nous allons ensemble lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous commencerons la lecture à partir du verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Seigneur, ta parole est notre guide et ta parole est vraiment celle que nous voulons serrer précieusement dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Tu nous as laissé tout ce qui est utile pour que nous connaissions un véritable bonheur ici-bas sur la terre. Même au travers des difficultés et des épreuves, Seigneur, quand nous pouvons compter sur toi, quel privilège est le nôtre. Seigneur, merci de ces moments de communion fraternelle. Donne-nous de pouvoir expérimenter cela d'une manière encore plus profonde, afin que nous t'honorions par nos vies. Seigneur, tu connais toutes choses, rien ne t'est caché. Mais toi, Seigneur, tu es notre tendre Père. Et nous savons, Seigneur, que tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Seigneur, comme c'est bon de pouvoir nous confier en toi. Seigneur, que ces instants servent à nous rapprocher de toi. Que pendant ce moment de méditation, tu puisses vraiment parler à notre cœur. Nous avons besoin de toi, nous comptons sur toi. Et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, le but de notre méditation, eh bien, c'est de voir ensemble ce qu'est le véritable soutien fraternel. Cela peut-être aidera notre frère pour inscrire le titre de ce message, le soutien fraternel. Selon ce que la Bible nous révèle, selon ce que la Bible nous enseigne. Dans la Bible, vous le savez aussi bien que moi, l'Église est comparée au corps, le corps de Jésus-Christ. Il est la tête, nous sommes le corps, et nous sommes reliés à lui par le moyen de la foi. Il y a un texte qui se trouve dans le livre du Cantique des Cantiques, qui, vous le savez, est un livre nous présentant la relation qui existe entre l'Église et Jésus-Christ d'une manière allégorique. Et ce verset dans le livre du Cantique des Cantiques dit « Ton cou, ô ma bien-aimée, est semblable à la tour de David, bâtie comme un arsenal, 1000 boucliers y sont suspendus. » L'épître de Paul aux Éphésiens nous rappelle que dans les armes spirituelles qui sont à notre disposition, il y a le bouclier de la foi. Ce qui relie donc le corps à la tête, c'est la foi. Et nous avons besoin d'exercer cette foi pour que, par l'action du Saint-Esprit en nous et au travers de nous, nous soyons capables les uns et les autres de mettre en pratique ce que Dieu nous montre au travers des Écritures. D'ailleurs, il y a dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, le dernier verset d'ailleurs de ce chapitre, une parole qui est aussi très forte. Il dit: il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Et il ajoute la plus grande de ces choses-là, c'est la charité, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce qui nous permet de créer un lien entre tous les membres qui composent l'Église de Jésus-Christ. Dans un corps, il y a des os, il y a des nerfs, il y a la peau, il y a des organes, et tous sont liés et, dans le fond, sont utiles les uns pour les autres. Il n'y a pas la possibilité pour un poumon d'être séparé du corps. Imaginez un petit peu cette scène presque ridicule. Un poumon par terre, isolé dans une pièce, il ne pourra pas aider à respirer une personne qui se trouve dans une autre pièce. Il y a donc vraiment besoin, exactement comme dans un corps, il faut l'unité de tout ce qui le compose, que tous les chrétiens, membres de l'Église, puissent bénéficier d'une véritable communion fraternelle. Nous ne sommes pas appelés à venir ici dans une église pour nous asseoir derrière quelqu'un, regarder son dos, et puis ensuite repartir, étant toujours dans la solitude, avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos soucis. Mais l'Église, c'est l'endroit où précisément nous cherchons une relation intime avec le Seigneur, mais aussi où nous recherchons à exercer tout ce que la Bible nous demande de faire pour maintenir une véritable communion fraternelle, sans laquelle l'Église va perdre toute son efficacité dans le témoignage et perdra aussi sa santé spirituelle. Dieu veut que l'Église soit vraiment triomphante, heureuse. Même, je le répète à dessein, s'il y a des fois des difficultés, des épreuves et des problèmes. Vous savez, j'ai souvent moi-même accepté dans mon cœur la vision un peu idyllique de ce que doit être une Église. Parfois, je me suis penché sur le psaume qui fait les délices de bien des cœurs, le psaume 23. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention, je vous avouerai même que dans les soirées ou les nuits d'insomnie, ça m'arrive de me rappeler ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je m'arrête ici un instant. Quand je lis cela, tout de suite je m'imagine une prairie magnifique avec de l'herbe grasse, bien verte, des brebis qui reposent là auprès d'un ruisseau. Il y a les oiseaux qui chantent, les papillons qui volent au-dessus de la tête des brebis. Les brebis ont des dents bien blanches. Elles sourient vraiment, c'est tellement merveilleux. Cependant, la réalité, elle est tout autre. Vous le savez comme moi. David, d'ailleurs, qui est l'auteur de ce psaume, eh bien, il se considère comme étant une brebis de ce pâturage dont le maître, le Seigneur, est le berger. Mais regardez à sa vie. Il a connu, et puis il y a d'autres psaumes qui ont été composés par lui-même, où l'on découvre qu'il est troublé, qu'il a même parfois de l'angoisse, qu'il connaît la peur. Il voit également sa nudité sur le plan spirituel. Il se rend compte de ses nombreuses faiblesses, de ses péchés. Mais il se considère quand même la brebis du Seigneur. Ça veut dire donc qu'il y a des fois dans l'Église des choses qui se passent et qui sont troublantes, qui sont inquiétantes. Il y a quand même un autre passage dans la parole de Dieu qui parle aussi de troupeaux. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel. Et au chapitre 34 de ce livre du prophète Ézéchiel, alors, il nous est montré ce qui arrive parfois au sein du troupeau. Par exemple, écoutez ce que dira Ézéchiel. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Un peu plus loin, le prophète Ézéchiel va parler en ce sens de la part de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi ainsi je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. Parce que vous avez heurté avec le côté, avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Et puis d'un seul coup, alors, Dieu parle par ce prophète. Et il dit, alors moi, je vais m'occuper de ces brebis-là. Moi, je vais prendre soin de ces brebis. Moi, je vais les rassembler. Bien sûr, nous n'oublions pas le contexte. Et nous savons que Dieu s'adresse ici particulièrement à ce peuple d'Israël qui connaîtra après la terrible dispersion que nous connaissons. Et bien un temps de restauration, ils attendent cela. Nous attendons la venue du Seigneur. Et quand il viendra effectivement, après qu'il nous ait enlevés pour que nous soyons avec lui dans le ciel, et qu'il retournera ici-bas sur la terre pour régner. Et mes frères et sœurs, n'oublions pas que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et le troupeau alors connaîtra ce rassemblement, cette bénédiction, mais en laissant de côté ce contexte que nous ne devons pas oublier. Il y a une réalité qui nous concerne aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Car si vous prêtez attention, dans le premier chapitre de cette lettre, eh bien, Paul adresse des louanges à cette église. Et il loue le Seigneur pour le travail qui a été fait parmi eux. Et même à un moment donné, il dit ceci, « Votre foi est telle qu'elle s'est répandue dans toute la Caillie. » Dans toute la Caillie, on parle de ce qui est votre caractéristique. Alors on pourrait croire que cette église, elle est parfaite, que cette église-là, eh bien, il n'y a pas de défaut. On l'a souvent comparée, je l'ai fait aussi avec l'église de Corinthe, au sein de laquelle, malgré qu'eux aussi possédaient tous les dons, et nous l'avons déjà souligné, je crois, dimanche dernier, il y avait les querelles, les disputes, les jalousies, le désordre. Alors, pour les Thessaloniciens, à partir du moment où Paul dit « Votre foi est connue dans toute la Caillie », on pourrait sous-entendre « Mais alors, il n'y a pas de problème dans cette Église ». Mais au chapitre 5, vous avez lu avec moi. Et l'apôtre Paul dit, mettez-vous à l'œuvre, travaillez, nous vous en prions. Il le fait avec une supplication, il le fait certainement avec beaucoup d'amour, de compassion pour cette Église qu'il connaît parfaitement. Et il dit, mais maintenant travaillez, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ah, cette Église dont la foi est connue, elle avait en son sein des gens qui vivaient dans le désordre. Il dit, consolez ceux qui sont abattus. Ah, tiens, tout n'était pas donc si parfait que ça. Il dit, oh, mais il faut continuer à supporter les faibles, user de patience envers tous, Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Il y a donc un travail à faire. Vous savez, si il y avait une Église parfaite, sans défaut, eh bien, je vais vous dire, comme un certain collègue l'a dit un jour, je serai le mouton noir dans cette Église-là. Et je pense que l'Église, elle peut avoir plein de défauts, parce que nous sommes pleins de défauts, et qu'il faut prendre en considération ce qui nous caractérise avec vérité, avec honnêteté. J'ai entendu le frère tout à l'heure, au moment de présenter le repas du Seigneur, prier dans ce sens. Quelqu'un d'autre d'ailleurs, dans la salle, a prié pour que la communion fraternelle soit sans hypocrisie, que nous soyons vrais, authentiques, les uns et les autres. Alors, il faut apprendre à considérer ce qui se passe autour de nous. Je dirais que l'égoïsme et l'orgueil, tout ça nous amène dans une attitude égocentrique qui est extrêmement dangereuse et qui peut mettre une Église en danger. L'humilité, la compassion, eh bien, nous amène à nous occuper d'autrui. Et à partir de ce moment-là, de prendre en considération aussi le problème qui est le partage de l'autre. Alors je vais essayer, point par point, de voir ce que Paul ici nous demande de faire. Il commence par parler de ceux qui vivent dans le désordre. C'est vrai que dans cette Église, et on s'en aperçoit après dans la deuxième lettre qu'il adresse à cette même Église, il y avait des gens qui pensaient qu'ils pouvaient vivre sans travailler. Et il leur dira, vous lirez cela à la maison, il leur dira tout simplement, si vous ne voulez pas travailler, ne mangez pas non plus. Mais ensuite, eh bien, nous nous apercevons que ce qu'il appelle les gens vivant dans le désordre sont tout simplement les indisciplinés. Indisciplinés, ça veut dire quoi? Ce sont ceux qui se contentent d'être simplement des auditeurs qui entendent la parole de Dieu, mais alors que chacun marche dans une certaine direction, eux simplement par indifférence ou par rébellion, eh bien, vont en sens inverse. Dans 1 Pierre, au chapitre de son épître, je n'ai pas marqué le chapitre, mais il est dit ceci, « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces que Dieu vous a accordées, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Voyez, on a tendance parfois, lorsqu'on se trouve dans une certaine épreuve, dans une certaine difficulté, dans une certaine souffrance, à se retirer de toute forme de service en disant « Ah ben non, 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 je ne peux pas supporter ce qui se passe autour de moi. Il y a de l'indiscipline, alors moi, je ne veux plus faire quoi que ce soit. » Écoutez bien, mes frères et sœurs, ça c'est une attitude qui va en sens inverse de ce que nous montre l'Écriture. Or, que faut-il faire quand nous nous trouvons en face de personnes qui adoptent cette situation-là et qui, au lieu d'être disciplinées, obéissantes, soumises à la parole de Dieu, agissent de cette manière un petit peu en révolte, même avec ce que Dieu dit, que faut-il faire? Il est dit ici, avertissez-les. Oui, mes frères et sœurs, nous avons une responsabilité, je dirais, réciproque. J'ai entendu quelqu'un prier aussi dans ce sens et dire, Seigneur, aide-nous à nous laver les pieds mutuellement. C'est vrai que nous pouvons nous avertir plutôt que de se cacher derrière un certain masque. Vous savez, je n'aime pas beaucoup ceux qui, dans le fond, ont créé une sorte de bulle autour d'eux. Ils vivent comme cela, comme s'ils étaient des saints, sans tâche, sans péché, sans aucune désobéissance, sans qu'ils aient eu la possibilité de commettre des erreurs. Mais vous savez, des personnes qui sont comme cela, elles n'ont jamais l'occasion non plus d'entendre un frère ou une sœur leur dire « Moi aussi, je connais ton problème. » Et puisque je connais ton problème, parce que c'est aussi mon partage, alors prions l'un pour l'autre. Et il n'y a rien qui soit, je dirais, plus efficace que de pouvoir avoir cette liberté de dire « Oui, mon frère, je comprends ce qui t'arrive, parce que moi aussi, je suis passé par là. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ta vie, mais écoute bien, moi, si je t'avertis, c'est pas en me plaçant au-dessus de toi, je suis comme toi. Mais je n'ai qu'un seul désir, c'est que Christ règne dans ta vie comme dans la mienne. » Avertir, ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer à l'autre que s'il continue dans une certaine voie, il y a un danger pour lui. Effectivement, on peut prendre cette direction de venir de moins en moins aux réunions. On peut prendre cette direction de se soustraire à toute forme d'activité, de service. Alors, où est le corps? Alors, où est cet organisme qui doit manifester la vie? Quand nous devons être les uns pour les autres, eh bien, des soutiens, la fraternité doit être une réalité. L'amour doit être sans hypocrisie. Ça doit être quelque chose qui est fondamental, que nous ayons le courage, la possibilité de nous parler vrai et avertir celui qui est indiscipliné. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et puis, la deuxième catégorie de personnes, ce sont les abattus. Mais juste avant de parler des abattus, eh bien, j'aimerais vous dire que l'exhortation que nous nous devons mutuellement doit être une exhortation, je dirais, empreinte d'une grande affection. Je lis par exemple dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 et au verset 31. L'attitude de Paul à l'égard des anciens, justement, de la ville d'Éphèse. Et il dit, souvenez-vous que je n'ai jamais cessé de vous exhorter avec larmes, nuit et jour. Vous savez, frères et sœurs, c'est important que nous soyons pleins de douceur, pleins d'affection, mais en même temps avec une grande fermeté. Parce que s'il n'y a pas cela, alors l'affection va se transformer en une forme de sentimentalisme qui va bien vite s'évaporer le jour où il y aura une petite épreuve, une certaine difficulté. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'être fortifiés dans l'amour pour le Seigneur. Et quand nous sommes fortifiés dans l'amour pour le Seigneur, nous sommes fortifiés dans l'amour les uns envers les autres. Il parle des abattus. Pour moi, les abattus, eh bien, ce sont les inquiets permanents. D'ailleurs, le terme en grec, c'est oligopsychos. Ça veut dire petite âme. C'est-à-dire quelqu'un qui habituellement est triste, il est très négatif, il a un sentiment de découragement permanent, il frôle souvent même la dépression. Et vous voyez, Paul parle ouvertement de ces choses. Il dit, il y en a, là, parmi vous, il y en a. Et il parle au fort. Et il leur dit, eh bien, soyez à côté d'eux. Il dit bien qu'il y a quelque chose à faire pour eux. Ils ont horreur des défis, les faibles. Ils ont horreur tout simplement parce qu'ils aiment bien leur zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours hésitants, constamment hésitants. Il y a cet abattement permanent dans leur âme, on peut les associer aux faibles. Mais les faibles, c'est encore une catégorie particulière. D'ailleurs, Paul va consacrer 3 chapitres dans les Épîtres pour parler des faibles. Vous lirez à la maison tranquillement le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, puis vous avez le chapitre 8 de la première Épître aux Corinthiens. C'est consacré uniquement aux faibles. Vous savez, ceux qui sont pleins de scrupules, mais qui sont bien souvent chancelants. Parfois, ils ne savent pas s'il faut manger ceci ou pas manger cela. Ils ont des doutes d'une manière constante. Et puis, ils sont toujours en train de poser des questions, toujours en train de se demander s'ils sont vraiment dans le plan de Dieu. Ils n'ont aucune assurance dans la marche avec le Seigneur. Alors, Paul adresse une parole à ceux qui sont forts. Et il leur dit tout simplement, eh bien, consolez-les, aidez-les, soyez à côté d'eux. Et le mot qui est utilisé, c'est celui qui a la même racine que paraclète, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit qui aide, qui se trouve à côté de quelqu'un, qui console. Voyez, celui qui est fort doit pouvoir ressentir la faiblesse de l'autre, non pas pour l'écraser, non pas pour le juger, mais tout simplement pour l'épauler, être à côté de lui et être là pour essayer de le relever. C'est vrai que c'est un travail épuisant, mais c'est ce que la Bible nous demande de faire. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, je vous l'accorde. Écoutez bien, mes frères et sœurs, je ne veux pas employer de l'humour malvenu, mais pardonnez-moi, je vais vous dire, c'est plus facile de donner un coup de pied qu'un coup de main. Et Dieu nous demande justement de prendre en considération que nous avons une responsabilité les uns par rapport aux autres. Je vais vous citer pêle-mêle parce que je l'ai noté comme cela dans ma petite feuille de notes. Le nombre de fois où dans la Bible il est parlé de ce que nous devons faire les uns par rapport aux autres. Alors, ça va être un petit peu fastidieux, mais je le fais à dessein. Écoutez bien. Confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques, chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres. Le même verset de Jacques, chapitre 5, verset 16. Édifiez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11, Romains chapitre 14. Portez les fardeaux les uns des autres. Soyez bons les uns envers les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Servez-vous les uns les autres. Galates chapitre 5, verset 13. Consolez-vous et encouragez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18, puis chapitre 5, verset 11. Il dit, vous pouvez vous reprendre mutuellement les uns les autres et porter les fardeaux les uns des autres. Galates, chapitre 6, verset 1. Pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Colossiens, chapitre 3. Aimez-vous les uns les autres. Et là, il y a beaucoup de références. Romains 13, 8, 1 Thessaloniciens 3, 12, 4, 9, 1 Pierre 1, 22, 1 Jean 3, 11, 23, 1 Jean 4, versets 7 à 11. Vous avez vu, mes frères et sœurs, tout ce que nous devons faire, les uns par rapport aux autres. Et il peut se trouver quelqu'un qui se trouve là et dit, « Et moi, que vais-je faire pour l'Église? Que dois-je faire pour l'Église ?» Mais lisez la Bible, lisez l'Écriture, et vous allez voir tout ce que la Bible nous impose comme responsabilité, comme devoir que nous avons les uns envers les autres. Vient de voir quelques cas, puis il y a évidemment, à part les faibles, à part les abattus, à part ceux que nous avons cités au commencement et qui ont ce problème qui sont toujours dans le découragement, il y a, pardonnez cette expression, ceux qui sont vraiment fatigants. Vous allez dire ça arrive ça dans l'Église? Eh bien, écoutez bien, la parole de Dieu parle de cette manière-là. Il dit « usez de patience envers tous ». Vous savez, ceux qui sont fatigants, ce sont ceux qui usent aussi la patience. Et l'on voit effectivement Jésus avoir connu dans cette relation même avec ses disciples ces moments où, non, il n'est pas comme nous. Il est, lui, miséricordieux, compatissant, bon. Mais quand même, vous n'avez jamais entendu, en lisant l'Évangile, comment Jésus a parlé à ses disciples parfois. Et il leur a dit simplement ceci, « Jusqu'à quand vous supporterai-je, gens de peu de foi ?» N'avez-vous pas lu combien de fois il a utilisé cette expression-là? Et il a dit, « Comment est-ce que vous avez si peu de foi ?» Eh bien, vous savez, il y a des personnes comme cela. Vous les exhortez constamment. Dans votre entourage, vous pouvez en connaître. Vous leur montrez la voie. Vous leur dites. Et vous avez l'impression qu'ils ont compris. Alors vous allez tout simplement repartir en disant, « Ah, bien cette fois, je crois qu'il a saisi ce qui est important. » Mais non. Au bout de quelques jours, vous vous apercevez. Non. Il est retombé dans le même péché. Vous savez, il y a des personnes comme cela qui, constamment, d'une manière permanente, retombent toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes déviations, dans les mêmes péchés. Alors vous êtes là pour les soutenir et leur dire, « Allez, mais regarde, voilà ce que dit le Seigneur. Voilà comment tu peux recevoir la force. » Bien non. Pendant un temps, il faut user énormément de patience. Mais je dois reconnaître, à titre personnel d'ailleurs, que Dieu est infiniment patient à mon égard. Et je peux dire, c'est sa patience qui est mon salut. Et donc, par conséquent, il me demande d'avoir aussi de la patience à l'égard de ceux qui ont cette attitude que je viens de décrire. Et vous savez, parfois c'est très long, et parfois c'est magnifique de voir comment après une période très longue, quelqu'un un jour reçoit par l'Esprit de Dieu, eh bien, cette victoire qui lui permet de se mettre debout et puis finalement de courir dans la voie qui a été tracée par le Seigneur. Que Dieu nous permette d'avoir cette patience et cette persévérance. Vous savez, frères et sœurs, tout ce que je vous dis là, je crois que naturellement, ni les uns ni les autres n'avons la force de le faire. Je vais simplement vous dire, il faut le secours qui vient d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle nous qui nous disons Jean de la Pentecôte, nous devrions demander encore plus au Seigneur qu'il nous remplisse de son esprit. Pas seulement, comme si souvent j'ai eu l'occasion de le dire ici, pour l'exercice de quelques dons, qui sont nécessaires, oh combien nécessaires, et qui sont bien souvent négligés aujourd'hui, mais surtout pour recevoir par le Saint-Esprit la grâce de voir Christ remplir notre vie et notre cœur de telle sorte que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, je vais vous donner cette petite illustration. Peut-être quelques-uns le savent, d'autres pas. Mais j'ai une faiblesse du cœur qui est compensée par ce que l'on appelle un pacemaker, c'est-à-dire un stimulateur cardiaque. Il est là caché sous ma peau quelque part. Et ce stimulateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand il y a une faiblesse du cœur, c'est lui, extérieur à mon organisme, dans l'organisme, mais extérieur à ce qui appartient au corps humain, vient à mon aide. Et c'est cela qui se déclenche et qui est capable alors de donner au cœur ce dont il a besoin. Toi et moi, mon frère, ma sœur, nous avons des faiblesses. Et bien souvent, nous sommes obligés de reconnaître, mais c'est impossible de faire, Seigneur, ce que tu me demandes. Et il va me dire, mais oui, c'est vrai, tu ne pourras jamais, par ta propre volonté et par ta chair, mais mon esprit, lui, il est capable de le faire. C'est toujours une aide qui vient de l'extérieur. Et c'est à cela que nous devons faire appel. C'est cela que nous devons demander à Dieu, qu'il nous accorde le secours d'un mot par le Saint-Esprit, afin que, eh bien, là où il y a la faiblesse et l'incapacité, il vienne suppléer et nous donner la possibilité de faire ce que naturellement nous ne pourrions jamais faire. À Dieu soit la gloire, qui a ce pouvoir de nous communiquer cette capacité-là. Mais il faut le rechercher. Il faut le rechercher dans une communion déjà personnelle de chaque jour, en méditant et en priant chaque jour. Et le Seigneur, eh bien, il peut répondre. Il y a une autre catégorie de personnes. Alors, là, peut-être quelqu'un dira, quand même, pas dans une église. Mais écoutez, pourquoi Paul dit ceci ? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Il y a des personnes qui sont capables de faire le mal dans l'église ? Eh bien oui, il y a les méchants. Je vous ai parlé tout à l'heure précisément des brebis qui ont les dents blanches. Mais il y a des brebis qui ont des dents de loup. Et des fois, elles mordent. Et des fois, ça fait mal. Il faut quand même que nous le reconnaissions. Ce n'est pas quelque chose que nous devons justement voiler, cacher, comme si nous ne devions jamais en parler. Quoi ? Dans l'église ? Pas ça ? Mais si ! Ça existe. La parole de Dieu, d'ailleurs, le met en relief. Et regardez, déjà dans l'Ancien Testament, David s'est plaint et il a dit, mais si ça avait été un ennemi qui avait agi de cette manière-là, mais c'est celui qui mangeait à ma table, c'est celui qui a partagé le pain avec moi, c'est celui-là qui m'a trahi. Là, il parlait de son propre fils. Vous connaissez l'histoire d'Absalom. Et en même temps qu'il parlait de cette manière-là, bien il parlait d'une manière prophétique, car Jésus a repris cela. Parce que dans le groupe, il y avait aussi un traître. Et ce traître, c'était Judas. Mais sans aller jusque-là, il peut y avoir des personnes qui ont cet esprit-là, sorte de méchanceté qui se trouve là dans leur cœur. Et malheureusement, il n'y a pas d'église qui n'a pas connu de souffrance. Parce que au travers de la calomnie, du commérage, des fois la pureté sexuelle de certaines personnes, et je dirais même la pureté de certains adolescents, de certaines jeunes gens et jeunes filles, a été atteinte par des paroles tellement blessantes, méchantes, de la part de certains individus qui, écoutez bien mes frères et sœurs, même si cela peut vous étonner, eh bien, ne sont pas pour autant des gens perdus. Tout le monde n'est pas comme Judas. Sans arriver à cet extrême-là, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte et qui peuvent avoir cette sorte d'esprit de méchanceté. Et puis alors on a tendance à faire quoi ? Eh bien, à se venger. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la loi. Mais la loi, elle est tout simplement là pour mettre en relief ce que nous sommes, mais jamais pour nous aider à changer. La grâce de Christ nous change. La loi, elle nous met en face de ce que nous sommes. Alors quelqu'un dira, oui, mais la loi dit, dent pour dent, œil pour œil, alors il faut bien que je me venge. Non ! Le Seigneur lui-même a dit, non ! Et il a repris ceux qui avaient cette pensée-là. C'est les magistrats qui devaient prendre en considération la loi telle que cela est révélé dans l'Écriture. Pourquoi ? Pour que le châtiment n'aille pas au-delà de certaines limites. Et Dieu avait fixé cela pour les magistrats. Mais pour nous, les chrétiens, eh bien, la grâce de Dieu, dont nous avons été les bénéficiaires, doit être aussi notre partage. Rendre le mal pour le mal ne résout pas les problèmes. Et je dirais, rendre le bien pour le mal, c'est pas humain. C'est là où on a besoin du miracle de Dieu. C'est là où on a besoin du secours de l'Esprit-Saint. Pourquoi est-ce que nous demandons toujours le secours de l'Esprit-Saint uniquement pour avoir une guérison ou manifester quelques dons particuliers? Pourquoi? Le secours de l'Esprit-Saint, c'est aussi pour nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Et vous voyez, des fois, l'Écriture, elle nous place devant des exigences qui sont infiniment au-dessus de nos capacités. Mais nous croyons au miracle, non? Alors si nous croyons au miracle, nous devons croire que pour Dieu, eh bien, il peut nous aider. Si nous sommes vrais, suffisamment humbles pour reconnaître, eh oui, toutes ces choses-là, finalement, c'est notre partage. Alors Seigneur, aide-nous à triompher. On parle de pardon. Vous savez, même Pierre s'est retrouvé dans une certaine difficulté à un moment donné. Et il a posé la question à Jésus, clairement. Et il a dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Combien de fois? Sera-ce 7 fois? Et il s'imaginait être très spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que à cette époque-là, les religieux préconisaient qu'on pouvait pardonner jusqu'à 3 fois. 3 fois, ça paraissait vraiment quelque chose de tout à fait logique. Alors Pierre, en proposant 7 fois, c'était plus que le double. Il pensait qu'il allait être félicité par le Seigneur. Vraiment 7 fois. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je te dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois, ferez le calcul à la maison. Ça représente quand même un certain nombre de fois. Et si Jésus a parlé de cette manière-là, c'est pas la loi, ça. C'est Jésus qui en parle. Ça veut dire donc qu'il y a une possibilité. Mais nous avons besoin de nous accrocher. Oui. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, en vous parlant de cette manière-là, croyez-le, moi aussi, je reçois un impact dans mon cœur. Moi aussi, je reçois la parole de Dieu comme étant l'autorité suprême. Et moi aussi, je reconnais la nécessité de me soumettre à cela. Frères et sœurs, si nous ne voulons pas accepter cette voie-là, eh bien, alors, comme un corps désorganisé, dont les membres sont écartelés, c'est la mort qui nous attend. Vous allez dire, oh, mes frères, n'est-il pas écrit que les portes même de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ? Oui, c'est vrai. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Mais l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement l'Église locale. L'Église de Jésus-Christ, elle est composée de tous ceux qui sont nés de nouveau, régénérés par le Saint-Esprit, de quelque dénomination que ce soit. L'Église de Jésus-Christ, elle est bien plus vaste et bien plus belle que ce que l'on peut imaginer. Et mais, de la même manière que des fois, nous voyons des plantes, comme par exemple les fougères, avec des branches multiples, pleine de vigueur. Puis d'un seul coup apparaît quoi? Certaines branches qui meurent. La plante ne meurt pas, mais il y a des branches qui meurent. Mes frères et sœurs, je prie le Seigneur pour que cette Église ne meure pas, mais qu'elle vive. Mais cela dépend de chacun d'entre nous et de notre manière de réagir à ce que la Bible nous montre et nous révèle. Que l'Esprit de Dieu applique cela à nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs, et prions vraiment les uns pour les autres.